Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. C'est une drôle d'histoire et avec du recul, une histoire drôle que je vais vous raconter aujourd'hui. La dissolution de 1997. Jacques Chirac est président depuis 2 ans. Il y a des législatives dans 1 an qu'il va perdre, probablement. Alors il décide d'anticiper. Il dissout et il perd. Et pendant 5 ans, il se retrouve à inaugurer les chrysanthèmes avec Lionel Jospin comme Premier ministre. Pour vous raconter cette histoire au plus près, j'ai croisé des livres, des articles de presse, des confidences des uns et des autres et des autobiographies. Et pour débriefer tout ça tout à l'heure, j'ai fait appel à 2 journalistes en activité déjà à l'époque. D'abord Jean-Michel Apathy, éditorialiste dans la matinale de Nikos Aliagas sur Europe 1. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Christophe.
Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Guylaine.
Bonjour Christophe.
Vous étiez tous les deux où en 97, Jean-Michel?
Nous étions ensemble à l'Express.
Oui, à l'Express.
Ah oui, tous les deux.
Tous les deux, oui. Au service politique de l'Express.
D'accord.
Nous avons vécu...
S'occuper de la gauche et je m'occupais de la droite.
Et voilà, et comme ça c'était complet.
Bonne pioche Christophe.
Je ne savais pas à quel point mon casting était excellent. J'ai écrit cette histoire avec Pierre Anquetin, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Si vous demandez dans la rue qui a eu l'idée stupide de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997, tout le monde vous répondra Villepin, Dominique de Villepin, la tête à claque de la droite de l'époque. Eh bien c'est faux. La vérité, on le sait maintenant, c'est qu'ils s'y sont mis à 4. Chirac, Juppé son Premier ministre, le secrétaire général de Matignon Maurice Gourdeau-Montagne et Villepin. Ça se passe un dimanche soir. Jacques Chirac adore faire le point le dimanche soir, au calme, dans son bureau de l'Élysée. Et donc un dimanche soir de février 1997, le 9, aux alentours de 18h30, il fait déjà nuit. Ils sont là tous les 4 et ils font le tour des emmerdes du moment. Et les emmerdes de 1997 sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut réduire les déficits, passer sous la barre des 3%, comme l'exige le traité de Maastricht. Or, le dernier budget accuse un déficit de 3,8%. Il va donc falloir serrer la vis, réduire les dépenses publiques. Mais si on serre la vis, on va perdre les législatives de l'année prochaine, c'est sûr. Donc, Chirac, Juppé, Villepin et Gourdeau-Montagne, ce soir-là, dans le bureau du président, cherchent le remède miracle. Juppé parle le premier. On pourrait remanier le gouvernement ? J'ai pensé à mettre Sarkozy à l'économie et aux finances. Il est dynamique, il est pro, il incarnera une ligne libérale. Et Alain Madelin à l'industrie, et puis Léotard aux affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un remaniement, oui. C'est une bonne idée, mais est-ce que ça suffira, hein? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dissoudre? C'est Jacques Chirac qui pose ça sur la table. Alors c'est vrai que ça peut paraître zinzin, parce que pile à ce moment-là, Chirac et le gouvernement Juppé disposent d'une très solide majorité à l'Assemblée. Les 4/5 des députés sont à droite. Mais l'idée n'est pas idiote. Se faire réélire et après se lancer dans les mesures impopulaires. Et Juppé ce soir-là approuve.
Dissoudre? Oui, c'est une idée. Les sondages nous sont favorables. La gauche n'est pas prête. En revanche, il faudrait se décider rapidement. Bien. Faisons des sondages plus poussés. Tâtons le terrain dans la majorité. Et puis on en reparle.
Trois semaines plus tard, toujours un dimanche soir, Chirac reçoit à l'Élysée son ami Jean-Louis Debré, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur.
Jean-Louis, Que penserais-tu d'une dissolution ? Oh, eh bien, ce que j'en pense, c'est qu'il faut faire attention au Front National. Il pourrait nous faire perdre des sièges, mais... Ouais, c'est gagnable. Ça prendra la gauche de cour. Je suis pour.
En vérité, la plupart des poids lourds de la droite chiracienne sont pour. Mais il y a des réticents. Bernard Ponce, par exemple, le ministre des Transports, un vieux grognard du RPR, un très proche de Chirac. Quand le président lui en parle, il bondit de sa chaise.
Vous n'allez pas faire cette folie ? Une dissolution ? Mais c'est fait pour une crise grave. Pas pour faire des opérations politiques. Enfin, ça va apparaître comme une dissolution manipulatoire.
Il n'y a pas que lui. Philippe Seguin aussi n'est pas chaud.
On n'est pas en ordre de bataille. On n'a pas de thème de campagne. Quand la campagne va commencer, ça sera la curée. Les risques de perdre sont beaucoup trop grands.
Ils vont faire hésiter Jacques Chirac, ces deux-là. Mais hésiter seulement.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui un épisode rocambolesque de l'histoire politique contemporaine, la décision de Jacques Chirac en 1997 de dissoudre une assemblée nationale où la droite règne en maître, pour se retrouver après les législatives avec Jospin comme Premier ministre. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy, éditorialiste à Europe 1, et Guylaine Ottenheimer, la rédactrice en chef du magazine Challenge. Nous en sommes au tout début de l'histoire, l'idée est sur la table. Mais la décision n'est pas encore prise. Mais l'idée est de se faire réélire avant de faire passer des mesures d'austérité pour réduire le déficit budgétaire. En vérité, Chirac hésite encore. Les mises en garde de Ponce et de Seguin notamment lui ont mis la puce à l'oreille. Et s'il était en train de faire une connerie. Mais mi-mars, Villepin débarque dans son bureau avec un sondage qu'il a commandé à l'Institut CSA.
Regardez, monsieur le président, en cas d'élection anticipée, on gagne à 80 ou 100 députés d'avance.
Mieux. 15 jours plus tard, Le Point sort un sondage Ipsos, encore plus encourageant.
Regardez, regardez, 140 sièges, monsieur le président, 140 sièges, vous voyez ?
Oui, oui, il voit. Mais il voit aussi que quand les sondeurs creusent un peu pour savoir comment les gens perçoivent une dissolution, ben ça fait peur. Ils perçoivent ça comme de la tambouille, comme de la tambouille politicarde. Alors disons que le feu n'est pas au vert, il est à l'orange. Mi-avril, Juppé vient voir Chirac avec une mauvaise nouvelle.
C'est encore confidentiel. Mais selon Bercy, on va vers un creusement du déficit l'année prochaine. 4,7. Et par ailleurs, l'INSEE prévoit une augmentation du chômage. Et avec ça, la gauche remonte.
Il y a urgence. Et donc deux jours plus tard, le 17 avril à 15h, le président convoque une réunion à l'Élysée. Il a pris sa décision. Il va dissoudre. La question maintenant, c'est quand et comment l'annoncer. Et là, ils s'y mettent à 7 pour cogiter. Chirac, Villepin, son adjoint Jean-Pierre Denis, Claude Chirac, conseillère de papa, Jacques Pilan, le conseiller en communication, et deux autres conseillers, Maurice Ulrich et Christine Albanel. Dans le bureau, Chirac fait les 100 pas. Il est comme un lion en cage.
Bon, alors Villepin, où en est-on ? Que disent les sondages ? Ils sont beaucoup plus serrés qu'en mars, monsieur le président. BVA donne la gauche gagnante, mais pour CSA, c'est la droite. Ça veut dire qu'on a encore une chance de gagner. Mais que dans un an, ce sera encore plus dur. Ce qu'il faut, c'est apporter une justification claire à la dissolution.
à décision exceptionnelle, justification exceptionnelle. L'Europe ? Les critères de Maastricht ? À ce moment-là, Jacques Pilan, l'expert en communication, intervient. L'Europe ! L'Europe, ça divise la majorité. Et surtout, ça effraie les Français. Alors qu'il faut au contraire les rassurer. Bon. Mais va falloir trouver, hein, parce que je compte faire l'annonce de la dissolution le 24. Alors, est-ce que ça se sait que le président envisage de dissoudre ? Bien sûr ! Politiques et journalistes vivent dans le même marigot. Le 19 avril, le journal annonce que Chirac va intervenir à la télé le 21, 3 jours plus tôt que prévu. Le lendemain, le JDD publie carrément un sondage pour ou contre la dissolution. Ben, les Français répondent oui. Ils sont pour à 59% et contre à seulement 38%. Le soir même, sur TF1, dans l'émission 7 sur 7, Anne Sinclair reçoit Lionel Jospin, le patron du Parti Socialiste, et elle pose carrément le sujet sur la table.
J'entends 3 choses. Soit on nous dit que la situation économique va s'aggraver, et donc qu'il faut faire voter les Français avant que cette situation soit aggravée. Soit qu'il va être nécessaire de donner un nouveau tour de vis, et il faut donc faire voter les Français avant qu'on y soit arrivé. Soit encore, on nous dit que le pouvoir a peur d'être rattrapé par les affaires. Et là encore, il vaut mieux faire voter avant qu'on en soit là.
En sortant de l'émission, Jospin va fêter ça avec d'autres éléphants. Strauss-Kahn, Vaillant, Vincent Peillon. Dans un bistrot du 6e arrondissement, le Procope, Chirac vient de se faire couper l'herbe sous le pied. Et donc, le lendemain, à 20h, il apparaît en direct sur TF1 et sur France 2. Costume gris, cravate grise, l'air grave.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action.
Et ensuite, il annonce les grandes lignes de son projet. Baisse des impôts, réforme de l'État, mais préservation du modèle social.
Et puis, il y a l'Europe. L'Europe, c'est la paix. Or, d'importantes décisions seront prises au cours des tout prochains mois. Le passage à la monnaie unique, avec un euro à l'égal du dollar et du yen. Pour aborder ces échéances en position de force, votre adhésion et votre soutien sont essentiels. Mes chers compatriotes, je vous remercie.
En sortant, il demande. Alors, j'ai été bien ? Vous avez été parfait, monsieur le président.
Oui. Vous croyez ? Je ne sais pas. Je me demande si j'y suis allé assez fort.
Trop tard. Les dés sont jetés. Le premier tour est dans un mois, le 25 mai. Le lendemain, Europe 1 prend le pouls des Français, au standard.
Qu'est-ce que ça va nous rapporter, tout ça ? J'en sais rien. Je sais pas, je comprends rien. Et en fait, j'ai pas envie de comprendre ce qu'il a dans la tête aussi. Hein. On a quand même le taux de chômage le plus élevé. Quand il a dit que c'est quand même une grosse, grosse majorité, puis ils aboutissent à rien, puis là, ils se remettent en question. Je sais pas, c'est...
Moi, je suis très content. Parce que je ne vais pas être obligé d'attendre 11 mois pour dire ce que j'ai à dire. Dire non, tout simplement.
En tout cas, il y en a un qui est dans les starting blocks. Il s'appelle Lionel Jospin.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui un épisode très marquant de l'histoire politique contemporaine, la décision de Jacques Chirac en avril 1997 de dissoudre l'Assemblée nationale, alors même qu'il y dispose d'une large majorité, mais que se profilent l'année d'après des législatives périlleuses en raison d'un indispensable tour de vis lié au déficit de 3% promis à Maastricht. Une histoire que je vais débriefer tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy, éditorialiste à Europe 1, et Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Le premier tour de ces législatives anticipées aura lieu dans un mois, le 25 mai. Et la campagne démarre sur les chapeaux de roue. À droite, c'est assez logiquement Alain Juppé qui s'y colle, le Premier ministre, et donc le chef de la majorité sortante. Et ça, en soi, eh ben c'est un problème. Il est cramé. Il est impopulaire, il ne peut pas incarner le changement. Le lendemain de l'annonce de Chirac, le 22 avril, il monte à la tribune du Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Derrière lui, un décor bleu, blanc, rouge et un slogan « Avec Jacques Chirac, un nouvel élan pour la France ». Et devant lui, tous les parlementaires du RPR et de l'UDF. Son discours dure trois quarts d'heure. Il y parle liberté d'entreprise, baisse des impôts, Europe et euro. C'est pas sexy. Ah ça non, ça ne fait pas rêver. Et regardez là, tous les caciques de la droite qui sont alignés en randonnion à côté de lui sur l'estrade. Regardez leur tête. C'est pas la fête, hein. Pasqua ne croit pas à l'Europe, il boude. Balladur et Seguin regardent dans le vide et Bayrou joue les Cassandres. Ça me rappelle le discours de lancement de campagne de Balladur en 95. Ça n'augure rien de bon. Ils ne vont pas se bousculer au portillon pour aider Juppé. Par exemple, Juppé voudrait tenir un meeting à Toulouse, sur les terres de Dominique Baudis.
Écoute Alain, je peux pas organiser un meeting en 3 jours. Hein.
Mais bien sûr que c'est faisable.
En plus, ça grèverait mes comptes de campagne. J'ai plus de marge là. Désolé.
Pourtant, UDF et RPR ont un quartier général de campagne commun près des Champs-Élysées. Ils l'appellent la Poissonnerie. C'est un ancien resto de poissons qui a fait faillite. Les ténors de la droite s'y réunissent de temps en temps, mais pour la galerie. Parce que la campagne, elle, est pilotée depuis Matignon, très exactement depuis le pavillon de musique, un petit bâtiment discret qui se trouve au fond du parc. Et là, si vous poussez la porte, vous tombez sur les artisans de la dissolution. Ils sont tous là. Claude Chirac, Jacques Pilan, Maurice Gourdeau-Montagne et bien sûr Dominique de Villepin. Et c'est là qu'ils choisissent le slogan de la campagne. L'élan partagé. Et l'affiche. Trois mains qui se tendent vers le ciel. Les mauvais esprits de la Poissonnerie disent que ce sont des mains de noyés. Et Chirac n'est jamais très loin. Hein. Il appelle plusieurs fois par jour.
Qu'est-ce que vous comptez dire à ce meeting? Vous avez pensé à inviter machin? Est-ce que vous avez bien soutenu le candidat truc? Qui est son suppléant déjà?
Et Juppé, lui. Il mouille la chemise autant qu'il peut.
Pour mieux aider ceux qui ont besoin de nous, il faut chasser les idées noires et retrouver un moral de vainqueur. Oui, France, le moment est venu. Mets-toi debout! Vive Jacques Chirac, vive la République et vive la France!
Et en face, alors, à gauche, comment ça se passe? En face, c'est Jospin, naturellement, qui est à la manœuvre, en tant que patron du Parti Socialiste. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Mais il a un souci, la dispersion de la gauche. Il lui faut absolument rassembler les communistes, les chevènementistes et les écologistes. C'est ainsi que le 26 avril, Daniel Vaillant, le numéro 2 du PS, invite les Verts à boire un coup à la mairie du 18e. Le représentant des Verts, Jean-Luc Benamias, arrive à 19h. On veut des circonscriptions gagnables à Paris, Daniel.
Ah, pas question. Vous n'êtes pas du tout implanté à Paris.
En Seine-Saint-Denis, alors.
Sinon, nos militants ne nous suivront jamais. Hein. Bon, je vais voir.
La négo dure jusqu'à minuit et un accord est scellé. Socialistes et écolos partent au charbon ensemble. Avec l'échevènementiste, c'est à l'hôtel Méridien Montparnasse que ça se passe. Dans une grande chambre louée pour toute une nuit. Lionel Jospin est là, avec son équipe. Chevènement aussi avec la sienne. Le marchandage dure 1h30. À un moment, les chevènementistes veulent se concerter entre eux. Eh bien, ils vont s'enfermer dans la salle de bain. Et ils en ressortent 2 minutes plus tard. Chevènement tend la main.
C'est d'accord.
Restent les communistes. Et là, c'est pas de la tarte. Hein. Les palabres durent une semaine. Jospin promet à Robert Hue, le numéro 1 du PC, une augmentation des salaires. Et il leur jure qu'il n'y aura pas de cure d'austérité. Et il leur lâche aussi des circonscriptions gagnables. Pour les portefeuilles au gouvernement, on verra plus tard. Mais l'accord est scellé devant les caméras le 29 avril à la Mutualité. Jospin vient d'inventer la gauche plurielle. Et c'est parti.
Dites-moi si vous avez aperçu quelque part, dans les mains d'un citoyen ou d'une citoyenne, un document qui ressemble à un programme RPR-UDF, si ce n'est les 5 feuilles rédigées en hâte, non pas sur la table d'un bistrot, ça ferait popu, mais dans l'arrière-bureau d'un cabinet ministériel, c'est plus techno.
Le Parti Socialiste se trouve un slogan. Changeons d'avenir. Jospin annonce le passage aux 35 heures, la baisse de la TVA, la création de 350 000 emplois publics, une police de proximité et la construction de logements sociaux. Il fait imprimer son programme à 6 millions d'exemplaires et comme il en manque, il en fait réimprimer 5 millions de plus. Nous voilà à la veille du premier tour. Chirac n'est pas trop inquiet, hein. Les sondages donnent la droite gagnante. De peu, mais gagnant.
Raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une bonne histoire, l'histoire de la dissolution de 1997, que nous allons en débriefer tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy, éditorialiste à Europe 1, et Guylaine Ottenheimer de Challenge. La décision de dissoudre est prise par Jacques Chirac en avril 1997. Le président pressent qu'il va perdre les législatives de l'année prochaine, puisqu'il doit prendre des mesures de rigueur pour rester dans les clous des 3% maximum de déficit budgétaire. Il cherche donc à se redonner une majorité solide avant de donner le tour de vis. À la veille du premier tour, les sondages donnent tous la droite gagnante. Et donc le jour du premier tour, le 25 mai, Chirac et Juppé sont assez sereins. Chirac vote à Saran, son fief de Corrèze. Et il déclare en sortant
« Il n'est pas question que je me sépare de Juppé. Hein. Ça serait se tirer une balle dans le pied. »
Alors quand dans l'après-midi, Jean-Louis Debré, son ministre de l'Intérieur, vient lui annoncer les premières estimations, la douche est glacée.
« Jacques, les premiers sondages ne sont pas bons. » La gauche est à 43% et nous, on est à 36%. Le Front National est à 15%. À moins d'un miracle au second tour, c'est foutu. Putain ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Chirac, du coup, rentre dardard à Paris. Il s'enferme à l'Élysée dans le mutisme. Juppé le rejoint en fin d'après-midi et Villepin aussi. Et ensuite, les résultats tombent circonscription par circonscription. C'est Villepin qui les récupère devant le Télex.
Ah ! Regardez là ! Madelin, il n'est même pas élu au premier tour. Et ce gars, il ne fait que 43%.
À chaque dépêche qui tombe, Villepin avale une tartelette aux fraises. Et dans son coin, Juppé est mortifié. Chirac le réconforte.
Vous savez, Alain, les raclés, hein, ça forme le caractère.
À 20h, la raclée se confirme. Le RPR et l'UDF sont à 36%, la gauche à 46%, le Front National à 15%. Et dans la foulée, toute la soirée, c'est la curée contre Juppé. Giscard, Balladur, puis Seguin appellent Chirac. Ils réclament sa tête. Eh bien, ils l'obtiennent. Chirac et Villepin l'annoncent à Juppé dès le lendemain.
Alain, ça n'est plus possible, vous le voyez bien. On va dans le mur. Il va falloir faire autrement et tirer les conséquences des résultats. J'ai compris, monsieur le Président. Je vais annoncer mon départ.
Madame, monsieur, bonsoir. Dernier coup de théâtre dans une campagne décidément fertile en rebondissement. Alain Juppé, il y a quelques instants, devant le comité politique de la majorité, s'est engagé à quitter Matignon, quel que soit le résultat du second tour. Je vous propose d'entendre tout de suite le Premier ministre.
Il faut aussi une équipe nouvelle, animée par un nouveau Premier ministre. Je fais confiance au Président de la République pour choisir les hommes et les femmes qui sauront entraîner les Français tout au long de cette nouvelle étape.
Et c'est Philippe Seguin qui prend la tête de la campagne pour le second tour, à lui de tenter de sauver les meubles. À gauche, Jospin fait passer la consigne.
La victoire est au bout des doigts, mais on doit rester modeste.
Et donc Jospin décide de se faire rare. Il envoie Aubry, Fabius, Kouchner, Lange, Strauss-Kahn et héros royal sur les plateaux télé. Mais lui, il prend de la hauteur. Quant à Jean-Marie Le Pen, il donne le coup de grâce à la droite, puisqu'il annonce que le Front National maintient ses candidats dans 70 circonscriptions pour faire battre le RPR et l'UDF. Et après ?
Il est 20h. Estimation Europe 1, France 2, PVA et Paris Match, la gauche remporterait largement la majorité dans la prochaine Assemblée nationale. 334 sièges pour la gauche, 242 à la droite.
À la maison de l'Amérique latine, les socialistes exultent. Et à l'Élysée, alors, comment ça se passe ? Chirac accuse le coup. Il s'attendait à un coup de massue, mais pas à ce point-là. Avant de s'enfermer dans son bureau, il lâche.
Eh bien, puisque c'est ce que les Français veulent.
Dominique de Villepin avait prévu un buffet dans son bureau. Personne, vous entendez, personne n'y vient. Il n'est déjà plus en odeur de sainteté. Bernadette Chirac le surnomme Néron. Elle le tient pour responsable de cette dissolution perdue.
Tout ça ne serait pas arrivé si Néron n'avait pas poussé au feu.
Chirac ressort quelques minutes de son bureau pour saluer ses fidèles. Et puis il monte se coucher. Rideau. À 21h, Alain Juppé prend congé des Français.
La dissolution décidée par le président de la République a donné la parole au peuple français. Celui-ci s'est prononcé, sa décision est souveraine, nous la respectons tous. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont maintenant gouverner la France. Et je souhaite bonne chance à la France.
À l'Assemblée, la gauche plurielle compte 319 députés, une majorité solide. L'opposition RPR-UDF en a 253, le Front National, un seul. Le 2 juin, Lionel Jospin est donc nommé logiquement Premier ministre. Et c'est parti pour 5 ans de cohabitation jusqu'à la fin du mandat de Jacques Chirac, c'est-à-dire jusqu'en 2002. Chirac écrira dans ses mémoires. S'il s'agit de savoir qui a pu inspirer une décision aussi malencontreuse, disons que cette erreur d'appréciation fut à tout le moins collective. Dominique de Villepin a eu sa part, comme tant d'autres qui ont pris soin après coup de se faire oublier.
Je sais d'expérience que la conduite des affaires d'un État est chose difficile. Peut-être avais-je un peu sous-estimé la difficulté, peut-être.
Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer donc dans un instant avec Jean-Michel Apathy et avec Guylaine Ottenheimer. Je vous ai raconté aujourd'hui la dissolution d'avril 1997 décidée par Jacques Chirac, président depuis 2 ans, et qui veut s'assurer une majorité solide jusqu'à la fin de son mandat. Résultat, la droite perd ses législatives anticipées et Chirac se retrouve avec le socialiste Lionel Jospin comme Premier ministre jusqu'à la fin de son mandat. Jean-Michel Apathy est là, éditorialiste dans la matinale de Nikos Aliaga sur Europe 1. Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. Alors je crois qu'il faut peut-être commencer par resituer les choses, parce que c'est peut-être quelque chose que nos auditeurs ont oublié, mais à l'époque, les mandats n'étaient pas alignés entre le mandat présidentiel et le mandat législatif. La durée des mandats était différente, le président avait un mandat de 7 ans, le mandat des députés était de 5 ans, et donc il y avait toujours un moment où ça ne collait pas, ça avait déjà valu tout ça, 2 cohabitations, l'une à François Mitterrand et la deuxième à François Mitterrand.
Toujours François Mitterrand.
Toujours à François Mitterrand. Et donc, lorsque Jacques Chirac est élu en 95, il a la majorité à l'Assemblée nationale sans dissoudre, qui vient de cette époque où Édouard Balladur était devenu le premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Pourquoi, Jean-Michel, pourquoi, Guylaine, est-ce que Jacques Chirac, par sécurité, en 95, quand il est élu sur l'élan de la présidentielle, ne dissout pas l'Assemblée nationale? Jean-Michel.
Ça lui a été fortement suggéré par certains de ses amis, puisque la majorité était à droite, mais la majorité dans la majorité était baladurienne. Et donc, comme on sortait d'un conflit très violent au sein du RPR entre Balladur et Chirac, des gens autour de Jacques Chirac, Villepin notamment, lui a dit « il faut dissoudre ». Là, 95, Chirac n'a jamais voulu, parce que Chirac a toujours dit, d'ailleurs il se fera piéger en 97 parce que des archives ressortiront, la dissolution, c'est quand il y a une crise politique. Là, il n'y a pas de crise, c'est la droite qui est majoritaire, je suis même de droite, donc on va continuer à gouverner comme
donc
ça.
Donc il applique ce que Ponce lui conseillera d'appliquer quelques années plus tard.
C'est ça, absolument. Voilà. Et ça, c'est Jacques Chirac, au fond. Jacques Chirac, vous savez, aujourd'hui très populaire, Jacques Chirac en politique, ça a toujours été une girouette. Vraiment, voilà, la pire des girouettes. Quand on entend ce qu'on a entendu là, c'est un amateurisme, un bricolage politique, c'est bien fait pour lui qu'il ait perdu, parce que vraiment, tout ça n'avait ni que ni tête, et tout ça a été fait à l'époque, on le comprend bien, quand on écoute ce que vous avez fait, sans aucune franchise, sans aucune explication sincère devant les Français, donc ça ne pouvait être que la boucherie qu'il a vécue, le pauvre Chirac.
Alors Guylaine, cette non-dissolution de 95, pourquoi d'après vous?
Oui, c'est une idiotie de ne pas dissoudre dès son élection, d'autant plus que la moitié de ses troupes sont baladuriennes, ils se détestent tous, il y a eu cette campagne présidentielle, ils sont déchirés, il fallait repartir avec des troupes fraîches, neuves, et un nouveau programme, et puis voilà. Mais simplement, pendant la campagne présidentielle, qui a été très dure, Jacques Chirac, pour avoir des soutiens parmi les députés, parce qu'il fallait grignoter des soutiens, parce que Balladur avait tout organisé, il a fait la promesse aux députés qu'il ne dissoudrait pas. Et comme ça, il a récolté des soutiens.
Voilà. Il les laissait au chaud, quoi.
Voilà, il les laissait au chaud.
Il pourra aller pour 5 ans après, au bout de leur mandat.
Après, il ne veut pas se déjuger. Et finalement, c'est impossible à tenir. C'est impossible à tenir parce qu'il a fait campagne sur la critique de l'euro, du franc, la critique de Bruxelles, sur la fracture sociale, ça. Alors que Balladur, l'homme des privatisations, a fait un programme très libéral, très européen. Et donc, ses troupes se retrouvent ensemble. Finalement, en plus, il ne fait même pas la politique qu'il a décidé de faire. Il fait le contraire. Personne ne comprend rien. Il augmente les impôts. Enfin, c'est le bordel absolument. C'est le bricolage. Il fallait repartir à zéro.
Parce qu'il y avait une stratégie à dissoudre dès 95, qui était de dire, au fond, je me donne une majorité pendant 5 ans, je perds les législatives au bout de 5 ans, ça grille la gauche pendant 2 ans, et moi je reviens tranquillement en 2001 pour me représenter, la gauche est cramée, et
c'est
je suis réélu.
Ce qui va lui arriver finalement.
En vérité, c'est ce qui va lui arriver.
Mais
c'est
ce qui va... Avec 3 ans de moins.
Avec 3 ans de moins. Alors, la décision de dissoudre. Moi, j'ai résumé la raison à ce tour de vis indispensable pour entrer dans les fourches caudines de Maastricht. Et donc, je dissous et je fais ensuite les mesures impopulaires. Est-ce que j'ai tout dit sur les raisons de cette dissolution, Jean-Michel ?
Oui, c'était essentiellement ça. Oui, je pense qu'il y avait une note qui circulait à Bercy et qui disait « Le budget 98 est impossible à construire. Il faut faire de la rigueur et donc assez logiquement au fond ». Alain Juppé notamment se dit, si on fait un budget de rigueur en 97, en 98, on perd les élections législatives. Donc on a ce problème-là à gérer. Le calcul n'est pas mauvais, c'est l'exécution qui est mauvaise. L'exécution est mauvaise en ce sens que Jacques Chirac, quand il dissout, là on a entendu le son, ne dit pas la vérité aux Français. La vérité, les journalistes la racontent, les opposants la racontent, le pouvoir ne la raconte pas. Tout le monde pense qu'on va vers une situation budgétaire difficile, et donc c'est pour affronter cette situation qu'il faut dissoudre. Mais Jacques Chirac, il dit pas ça, il dit on va baisser les impôts. Alors que précisément, on n'a pas les moyens de baisser les impôts. Jacques Chirac installe la campagne des législatives dans le mensonge. Mais c'est l'exécution qui est mauvaise, parce que le calcul a montré que la droite n'aurait pas été battue sans le Front National. C'est une élection, l'élection législative de 1997, qui est très atypique, parce que le Front National se maintient. C'est un record, donc, dans 70 circonscriptions. Et il y a à peu près 40 à 45 députés socialistes, j'ai oublié le chiffre exact, qui passent en triangulaire. Ça ne s'est jamais reproduit. C'est le Front National qui bat la droite. Mais sinon, si l'exécution avait été plus franche, est-ce que les Français, au fond, les Français, on leur ment à chaque élection. Mais si pour une fois, on leur avait dit la vérité, est-ce qu'ils n'auraient pas adhéré ? On ne sait pas.
Là-dessus, Hélène ?
Alors, il faut se souvenir de ce qui se passe à l'époque. C'est vrai que le chômage remonte, la croissance n'est pas très bonne, donc l'équation budgétaire est compliquée. Il y a cette note de Bercy le secrétaire général adjoint de l'Élysée...
qui annonce donc un déficit à 4,7.
Oui, Jean-Pierre Denis insiste beaucoup là-dessus. Je pense que c'est un cinquième personnage très important dans la décision. Mais il y a un truc encore plus dingue, c'est que finalement, Alain Juppé est grillé. Grillé de chez grillé.
Il y a tout.
Il y a les jupettes, s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, je m'en vais. Il y a Thompson vaut 1 franc.
Il y a l'appartement,
je suis droit dans mes bottes. Il y a la façon dont il parle aux gens. Il est grillé de chez grillé. Pendant des mois, il y a des émissaires, y compris des éditorialistes, y compris Séguin, y compris Pilon, qui essayent de convaincre Jacques Chirac de changer de Premier ministre, mais il ne veut pas. Il y a un mystère Juppé. Il ne veut pas décoller de Juppé. Il faut vraiment le mauvais score du premier tour pour qu'il ouvre les yeux sur l'impossibilité de maintenir Alain Juppé. Il y croit comme à une mascotte.
Et puis alors, une histoire d'amour entre eux.
Il y a l'UDF qui scie du bois. J'ai retenu cet aparté de Bayrou qu'on lui prête le soir du meeting de Juppé. Le refus de Dominique Baudis de faire venir Juppé à Toulouse parce qu'il n'a absolument pas envie de se montrer avec lui parce qu'il voit qu'il va le cramer, qu'il risque de perdre son siège de député. L'UDF, on est déjà dans cette histoire-là qui perdure. Oui, les centristes si la planche.
Oui, l'UDF était aussi tribal adurienne, voilà. Donc ils ne vont pas venir au secours de Chirac, qui quand même les a un peu eu au coin du bois en 1995. Enfin, c'est une droite fatiguée, c'est une majorité épuisée. L'élection présidentielle de 1995 s'est déroulée dans de mauvaises conditions. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de séquelles de cette élection présidentielle. La machine n'est pas performante parce qu'il y a eu trop de trahisons, de violences, de blessures et d'insultes entre eux.
Il y a beaucoup de haine, je vais dire même.
Oui, bien sûr.
De haine. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que quand on regarde le programme de la présidentielle de Jacques Chirac et l'action d'Alain Juppé, c'est le contraire dès le départ. C'est dès le début de la pression fiscale, rentrer dans les critères de Maastricht, etc. Alors que
c'est
ça
tout
a été
sauf la fracture sociale.
Tout sauf la fracture sociale, la dénonciation des technocrates de Bruxelles, etc. Donc il y a un moment où c'est effectivement déjà quand personnellement les personnes se détestent parce qu'on a appartenu à des cercles complètement différents avec des objectifs différents. Mais ce qui est dingue, dingue de chez dingue, c'est que cette note qui dit que la situation économique va s'aggraver, eh bien ils ont tout faux à Bercy. Parce que la situation économique va s'améliorer considérablement et Lionel Jospin va en profiter considérablement.
Elle va venir à combien la croissance cette année-là, finalement, vous vous souvenez?
Non. Il fait peut-être une politique très pro-consommation qui va relancer la croissance. Il a peut-être une très bonne politique avec sa Dream Team, mais il bénéficie de vents favorables exceptionnels.
On va marquer une pause et ensuite on parle de la gauche. Parce que le pari que fait Chirac, c'est que la gauche n'est pas prête. Eh ben si, elle est prête. Après la pub. Je vous ai raconté aujourd'hui la dissolution d'avril 1997, décidée par Jacques Chirac, président depuis 2 ans, et qui veut s'assurer une majorité solide jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2001. Résultat, eh bien, il perd ses législatives et se retrouve avec Lionel Jospin comme Premier ministre jusqu'en 2001. Je suis avec Jean-Michel Apathy, éditorialiste à Europe 1, avec Guylaine Ottenheimer, la rédactrice en chef de l'hebdomadaire Challenge, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Alors je voudrais qu'on parle maintenant de la gauche. Le pari de Chirac, d'ailleurs ça apparaît dès la première réunion, c'est que la gauche n'est pas prête. C'est vrai qu'une dissolution, ça entraîne des législatives un mois après. Et donc, faire le pari que le camp adverse n'est pas prêt dans le mois qui vient, ça n'est pas un pari idiot. Et Jospin parvient à faire quelque chose qui s'avérera ensuite impossible par la suite. Après, depuis Mitterrand, c'est la première et la dernière fois qu'on peut le refaire. Il invente la gauche plurielle. Il rassemble toute la gauche, chevènementiste, écologiste, communiste, autour de lui. Il y a quoi là? Une opportunité qu'il voit? Il y a le hasard? Il y a un talent personnel de Jospin?
Non, il y a un manque d'observation de la droite sur la gauche, parce que Lionel Jospin devient premier secrétaire du Parti Socialiste à l'automne 1995. Pendant toute l'année 96, alors ça, la droite ne l'a pas vu, Lionel Jospin organise au sein du Parti Socialiste, parce qu'après il faut parler des partenaires de la gauche, il organise des conventions sur beaucoup de sujets. C'est un parti qui réfléchit. Alors, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas tout ça, ça bricole, mais c'est un parti qui réfléchit, qui discute.
C'est là qu'ils inventent les 35 heures.
Qui s'harmonise. Alors c'est là, effectivement, c'est Dominique Strauss-Kahn qui porte les 35 heures. Martine Aubry est opposée en 96. D'accord. Et puis après, ils vont inverser. C'est, la politique française, c'est d'une irrationalité totale. Nous sommes des dingues
de l'irrationalité.
Mais
c'est là qu'ils inventent. Ils sont en train de faire un programme.
Et donc, en fait, ils sont prêts. Jospin, il a 60 ans, il est en 37, 97, 60 ans. Il est dans sa maturité. Il est bon en 97, il sera mauvais en 2002, il fait une bonne campagne. Il est entouré de gens assez brillants. Alors, il y a des anciens, mais qui sont encore jeunes.
Brillants et jeunes.
Il y a Fabius, mais il y a Strauss-Kahn, il y a Aubry,
qui sont des têtes nouvelles.
Il y a Kouchner, il y a un beau... Et puis à gauche, les autres partis... Dominique Voynet, en 94-95, a tranché le débat des écolos qui ne sont plus ni à droite ni à gauche, mais qui sont à gauche, qui ont envie de gagner, d'où l'accord que vous avez mentionné avec les socialistes.
Une poste.
Et Robert Rue a fini d'être communiste. Robert Rue, il a l'échine souple, il accepte tout. Et du coup, il y a à gauche, tout de suite, dès que la campagne s'ouvre, une espèce de dynamique. Et là-dessus, Chirac et Juppé ont très mal apprécié la gauche.
Hélène ?
Lionel Jospin a eu du flair. Moi, je dirais deux choses. Je dirais... Ils ont fait cette gauche plurielle, ces alliances, d'autant plus facilement qu'au début, personne ne croit qu'ils vont gagner. Donc quand vous n'êtes pas certain de gagner...
Quand il n'y a pas de siège à partager...
Oui, quand il n'y a pas la possibilité immédiate de vraiment exercer le pouvoir, on ne se dispute pas sur le programme. C'est plus facile. Et puis on n'a pas tous les feux de l'actualité sur vous. Donc finalement, on se dit, bon, c'est un peu un coup pour rien, donc pourquoi pas toper là, etc. La deuxième chose... c'est que c'est vrai qu'une constance en politique, c'est sur le changement qu'on gagne. Et le slogan qui était choisi...
En France,
En France.
Parce qu'ailleurs,
oui,
non.
Non, non, mais en France.
Ouais. En Allemagne, non,
mais même dans la plupart des démocraties parlementaires. Mais nous, France, on n'est pas une démocratie parlementaire. On est une république monarchique, donc c'est différent. On joue sur le changement. Le slogan de la gauche incarne ce sens changement. Il y a une dream team, il y a des têtes nouvelles. Et encore une fois, Jacques Chirac lâche Alain Juppé beaucoup trop tard. Les gens ne veulent plus voir la tête d'Alain Juppé.
Alors, évidemment, parlons de la cohabitation, parce que c'est important de dire que Chirac déteste la cohabitation.
Oui.
Mitterrand, sans doute, lorsqu'il vit la première cohabitation, est un président fatigué, usé. Il le vit probablement moins douloureusement que Chirac. Chirac n'est pas content de se retrouver pendant 5 ans président... un peu fantoche de la République.
Non, sans doute pas, mais en même temps, Chirac, dans mon souvenir, l'a assez bien vécu, il s'est bien amusé même, puisque le 14 juillet, je crois, 1999, il sort l'histoire de la cagnotte qui va mettre le gouvernement ensemble dessus-dessous. Chirac, pour le coup, moi, Chirac, je l'ai toujours trouvé mauvais dans la vie politique, sauf là. Je trouve qu'il a géré la cohabitation avec pas mal de sensibilité. Il a bien su gérer Jospin. Il a fait semblant de bien s'entendre avec lui. Il a compris les faiblesses de Jospin, qui était quand même un type extrêmement orgueilleux, qui, quelquefois, comme Jospin, les 2 premières années, est assez bon, la tête ne passe plus les portes. Hein. Oui. Donc il voit bien toutes les faiblesses de Jospin. Je l'ai trouvé assez finaud, Chirac. À mon avis, il a plutôt bien vécu la cohabitation que mal. Et puis, ça s'est bien fini. Pour Jacques Chirac.
Guylaine, sur la cohabitation, la manière dont Jacques Chirac l'a vécu.
Jacques Chirac est un homme politique contraint. On sait que depuis le début de sa vie, c'est pas son choix de faire ça. Il faut qu'il fasse plaisir à sa mère, à son père, pour faire l'ENA, il rentre en politique. En fait, c'est quelqu'un qui est passionné par les voyages, les antiquités, l'histoire, que ce soit en Chine, au Japon, c'est sa passion. Et il fait de la politique de manière contrainte. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un économiste, il n'a pas de vision. C'est du bricolage et il tient parce qu'il a cette capacité d'empathie, de sympathie, de travail de terrain. Il a usé des semelles, mais l'exercice du pouvoir, il est pas passionné par ça. Et donc finalement, cette cohabitation, d'une certaine manière, je ne dirais pas que ça l'a soulagé. Il a juste été l'incarnation de la France éternelle avec ses contradictions, ses souffrances, etc. Et cette capacité à être un monarque empathique.
Donc au fond, mon histoire inaugure une période bénie. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à faire revivre cette période d'avril 1997.
Merci à vous, Christophe Ondelatte. Vous étiez avec Jean-Michel Apathy et Guylaine Otteinheimer. On vous retrouve demain pour une nouvelle histoire, celle de la comédienne Charlotte Valandré, qui a 17 ans, après une relation amoureuse, contracte le VIH. Elle sera à vos côtés dès 14h.